Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances.
Chers amis, chacun un peu, bienvenue une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro. François Charbon est à la barre ce soir pour un nouveau numéro des Chroniques de la Longue Vue, en compagnie donc du camarade Maurice. Salut Maurice.
Bonsoir à tous, chers auditeurs.
Ravi de te retrouver, Maurice. Ravi de retrouver, évidemment, nos auditeurs pour un nouveau cycle de deux émissions. Hein, les plus habitués d'entre vous savent maintenant qu'on aime bien fonctionner par deux émissions sur une thématique un peu large, mais toujours avec cette idée générale des Chroniques de la Longue Vue, qui consiste, je le rappelle pour les nouveaux auditeurs, qui consiste à sortir précisément la longue vue de la poche pour revenir sur un fait d'actualité passé. Alors passé, ça peut être un passé récent, comme la crise des Gilets jaunes, ou un passé comme aujourd'hui peut-être un peu plus ancien, puisqu'on va repartir au XXe siècle, revenir sur un fait d'actualité oublié, et qui pourtant en dit assez long peut-être sur certains phénomènes. Donc là, en l'occurrence, ce soir et lors de la prochaine émission, sur le concert des nations, sur la géopolitique et plus globalement sur le rapport de la France avec ses alliés, puisque nous avons intitulé ce cycle donc « Nos meilleurs alliés ». Et cette émission, plus particulièrement ce soir, s'appellera « Les amis du désert ». Voilà. Alors, tout d'abord, et en préambule, quelques excuses, puisque nous sommes contraints d'enregistrer cette émission à distance, avec les moyens du bord, ce qui sous-entend sans doute une qualité sonore évidemment moindre que lorsque nous sommes au sein de notre studio. Et donc voilà, toutes vos excuses par avance pour les éventuels soubresauts audio que vous allez devoir subir, chers auditeurs, pour aller au bout de cette émission. Alors, commençons tout de suite. Donc, ce cycle de deux émissions reviendra sur deux pays, bien sûr, qui sont souvent présentés comme des alliés, et qui pourtant nous traitent parfois comme des ennemis, ou plutôt, pour être plus exact, comme des soumis. Difficile aujourd'hui de dire que les USA ou Israël ne sont pas nos alliés, sans passer immédiatement pour un pro-russe, pour un crypto-nazi, ou pour que sais-je encore. Pourtant, des exemples factuels existent, et bien rappelés, ces événements suffisent, en tout cas à notre sens, à démontrer une chose toute simple. Dans le concert des nations, il n'y a que des solistes. Et nous sommes manifestement pour l'instant de ceux qui n'ont pas encore compris ce petit postulat. Ce soir, donc, on va faire une focale sur l'état d'Israël et des exemples d'ingérence ou de non-respect de la souveraineté française qui ont eu lieu depuis sa création. Alors évidemment, on ne peut parler que de ce qui a été plus ou moins reconnu, de ce qui est acté, de ce qui a fait justement l'actualité à un moment donné, ce qui fait que, bien entendu, nous sommes loin d'être exhaustifs. Et donc ce soir, on va parler d'un certain nombre d'épisodes, mais on va faire un gros plan sur deux d'entre eux, à savoir un vol d'abord, un assassinat ensuite, et puis il y a quand même pas mal de faits qu'on peut élaborer. Donc en fin d'émission, Maurice prendra le temps d'en citer un certain nombre. On ne peut malheureusement pas développer sur tout, mais Maurice prendra le temps de revenir dessus. Alors, commençons donc tout de suite par le vol, à savoir l'affaire des vedettes de Cherbourg. Nous sommes donc, chers auditeurs, en 1965, et la France vient de signer un contrat de vente pour 12 bateaux canonniers avec Israël. Ces vedettes seront construites à Cherbourg, au sein des chantiers Félix Amiot. Rapidement, cinq premières vedettes sont livrées à ces nouveaux amis de la France, donc nos alliés israéliens. Tout a l'air de bien se passer, mais quelques jours seulement avant la guerre de six jours, le vieux de Gaulle décide de mettre Israël sous embargo concernant la livraison d'armes. Il ne veut pas participer de près ou de loin à ce conflit, il ne veut pas livrer d'armes à une puissance belligérante. Sur les 7 vedettes restantes, donc, puisque je le rappelle, il y en avait 12, on a déjà livré 5. Sur les 7 vedettes restantes, 2 sont rapatriées en catimini en Israël durant des essais en mer, juste après l'embargo. Donc techniquement, en soi, c'est déjà une violation d'embargo, un vol, mais c'est pas ça qui constitue le gros du scandale. Donc 5 plus 2, 7, il nous reste donc 5 vedettes déjà construites, mais non encore livrées, car sous embargo. Alors à partir de là, une grande série de négociations, de demandes en tout genre, de plaidoyers, de pleurnicheries aussi, aura lieu en plus haut lieu, et n'aboutira jamais, ni d'ailleurs sous De Gaulle, et encore moins finalement sous Pompidou, ce qui peut surprendre puisque certains l'imaginaient sans doute plus libéral sur le sujet. Et finalement, une société norvégienne se propose pour racheter ces bateaux qui encombrent finalement tout le monde, pour en faire des bateaux de recherche de pétrole. Et donc, dans ce contrat qui était donc biparti entre la France et Israël, une nouvelle partie apparaît, cette société donc, de recherche de pétrole norvégienne, et donc la France accepte, Israël accepte aussi, accepte d'ailleurs rapidement ce marché, et fournit même, c'est quand même vraiment gentil, un équipage pour convoyer ces vedettes de Cherbourg jusqu'en Norvège. Et c'est comme ça que, en pleine nuit de Noël, on aime les symboles, manifestement, en pleine nuit de Noël, ces vedettes partiront direction Haïfa. Et elles y feront une arrivée, évidemment, glorieuse quelques jours plus tard. Alors Maurice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les faits, peut-être ?
Peut-être sur le contexte d'abord, si tu...
Bien sûr.
Sur le contexte, en fait, bon, il y a un refroidissement des relations franco-israéliennes, en fait, en raison d'un certain nombre d'épisodes. Bon, alors, tu l'as dit, il y a évidemment
la guerre de six jours.
En 67, ouais. La guerre de six jours, donc, où le général de Gaulle est très remonté contre l'État hébreu. Il ordonne d'ailleurs au Mossad de fermer son bureau parisien, qui est en fait la plateforme pour ses activités en Europe. C'est la plateforme du Mossad pour ses activités en Europe. Et d'ailleurs, les espions du Mossad se replieront sur Bruxelles. Mais même avant cet épisode, il y a eu le fameux enlèvement de Mehdi Ben Barka, donc en octobre 65 devant la brasserie Lip à Paris. Enlèvement de Ben Barka dans lequel a trempé le SDEC français. Évidemment, les services du roi du Maroc Hassan II et les hommes d'Oufkir, et fait moins connu mais qui est tout à fait déterminant, les services de renseignement israéliens.
Est-ce que tu peux rappeler, peut-être pour nos auditeurs les plus jeunes, qui était Ben Barka ?
Alors Ben Barka, en fait, il était un des fers de lance, on va dire, du mouvement non aligné. Même si après on a su qu'il travaillait pour les services tchécoslovaques, le STB. Il était une des figures de proue de ce qu'on avait appelé la tricontinentale. Il était proche de types comme Malcolm X. Enfin bon, voilà, c'est un tiers-mondiste. Il a rencontré également, je crois, Ben Bella. Voilà. C'était un ennemi juré d'Hassan II. Donc son enlèvement a eu lieu en France, le roi Hassan II voulait se débarrasser de lui, il y a eu un accord donc, avec les Israéliens, et les Israéliens, donc, en échange de fournitures d'armes, notamment aux Marocains, les Israéliens voulaient dans la périphérie de la zone, notamment au Maghreb, avoir des pays qui ne soient pas totalement hostiles, et ils se sont appuyés notamment sur le Maroc. Et en échange, Hassan II avait demandé à ce que les Israéliens lui fournissent un coup de main pour éliminer Ben Barka. Et l'opération a eu lieu en France, donc à Paris, l'enlèvement a eu lieu à Paris. Ben Barka a été éliminé. Et il se dit que... Alors il y a eu plusieurs théories. On a dit que son corps avait été enterré en forêt de Saint-Germain. D'autres ont dit que c'était justement les Israéliens qui l'avaient incinéré, qui l'avaient éliminé, en fait, qui avaient fait disparaître son corps à Villabé dans l'Essonne. Il y a plusieurs théories qui ont été avancées. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une certitude. Les services israéliens ont joué un rôle, comme je le disais, avec le SDEC français, donc avec les services marocains, dans l'élimination de Ben Barka. C'est même des journalistes du Idiot à Aronaut qui ont confirmé l'affaire en 2015. Et cette affaire-là avait énormément déplu à De Gaulle. De Gaulle était très énervé déjà contre Holzdeck. Et il a été très vite mis au parfum que les Marocains et Holzdeck n'avaient pas agi seuls, mais que les Israéliens avaient certainement participé à cet enlèvement et à cette élimination, et tout ça sur le sol français. Donc il y avait déjà un contentieux, puis il y avait un autre point aussi qui était très important, c'était que les Israéliens empiétaient depuis quelques années déjà sur les plates-bandes françaises, sur la chasse gardée, ce qui est encore la chasse gardée et le domaine réservé français, africain, ce qui avait tendance à particulièrement énerver notamment Focard, qui était le monsieur Afrique à l'époque, monsieur Afrique de l'Élysée. Et donc les liens se distendaient déjà depuis un certain temps avec Israël. Et De Gaulle avait une volonté, c'était de rééquilibrer la politique pro-israélienne de la France qui avait eu cours, notamment sous toute la 4e République. L'idée était de la rééquilibrer pour avoir une politique, pas pro-arabe comme on l'a dit un peu trop vite souvent, mais disons une politique méditerranéenne, ce qui englobait l'ensemble des pays du Maghreb, du Proche-Orient, ça incluait évidemment Israël, mais l'idée était de rééquilibrer les relations. Arrive ensuite, donc en 67, la guerre des six jours, et on se retrouve donc avec le début d'un embargo. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le siège du Mossad à Paris saute, et on se retrouve avec un embargo partiel sur les armes qui est décrété par la France. Mais Israël continue de bénéficier en fait de la complicité d'une partie importante de l'appareil militaro-industriel français. Et c'est notamment un article d'I24 News, alors la version web, qui nous rappelle ça. Des avions entiers sont transférés en pièces détachées en Israël dans des caisses sous couvert du service après-vente. La réparation des avions ne sont pas concernées par l'embargo. Et tout ça se fait en partie dans le dos de De Gaulle. De Gaulle est particulièrement en colère contre ça et il sait qu'il y a certaines parties du monde des hauts fonctionnaires, y compris au sein de l'armée, où on a une vision très pro-israélienne et donc qui contredit cette volonté gaullienne en fait de rééquilibrer les relations dans la zone. Et quelques temps plus tard, le durcissement arrive et l'embargo total est décrété à la suite d'un raid israélien sur le Liban, déjà, qui a eu lieu le 28 décembre 68. Ces frappes, en fait, ce raid israélien sur le Liban avait été effectué en représailles à un détournement d'avions El Al par un commando palestinien. Et donc, à partir de là, l'embargo qui était partiel devient total. Donc, conséquence, elle est très simple, c'est que les vedettes qui avaient été commandées en 65 et dont une moitié avait déjà été livrée, eh bien, reste coincé à Cherbourg dans le Cotentin, et donc il en reste 6 qui sont en rade et qui avaient été commandés par Israël. C'est là que l'opération, je crois, qui avait été appelée Arche de Noé, si je ne me trompe pas, est déclenchée. Donc à la Noël 69.
Cette opération, effectivement, elle semble très bien menée. On l'a dit, il y a une société norvégienne qui est en réalité une société écran, qui est un hameçon
des Israéliens. Il y avait une société écran panaméenne.
Voilà.
Il y avait une société écran panaméenne et il y avait donc une vraie fausse compagnie de nationalité norvégienne qui s'était fait appeler Starboat, évidemment en référence à l'étoile de David, Star pour le mot étoile, et qui était prétendument spécialisée dans le forage des zones pétrolières en mer.
Mais est-ce qu'on peut croire que les Français se sont fait berner réellement, ou bien est-ce qu'il y a eu un petit peu de laisser-faire, justement, du fait des complicités que tu évoquais là, à l'instant?
Alors, certaines personnes ont été très, très honnêtement bernées, et il y a eu de très probables complicités, oui.
Et alors,
ça ne fait plus guère de doute aujourd'hui. Ouais.
Globalement, est-ce que la France aussi n'avait pas une forme d'intérêt à cela? En préparant l'émission, j'ai creusé un petit peu sur les chantiers navals en question. Il apparaît que globalement, ils étaient en grande difficulté financière et que la vente quand même de ces corvettes, de ces vedettes, pardon, je vais y arriver, étaient plus ou moins primordiales et capitales pour ce chantier international. Il y a eu quand même des accointances comme ça économiques aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un intérêt tout simplement?
Oui, bien là, apparemment, c'est que en fait, cette affaire, paradoxalement, a fait connaître les vedettes. Et ça a offert une promotion assez inattendue, bon, en tout cas qui n'était pas prévue, mais assez vedettes. Et on a vu qu'elles fonctionnaient très bien, qu'elles avaient une grande autonomie, qu'elles étaient rapides, très mobiles, qu'elles... Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais visiblement, elle remplissait tout un tas de critères qui étaient recherchés. Et ça a fini par visiblement être bénéfique pour la société qui construisait ces vedettes.
Et alors, il faudrait qu'on se fasse voler un Rafale, alors?
Ouais, peut-être, ouais.
Alors...
chose qui est, qu'on oublie parfois, mais c'est que la guerre des six jours a été remportée par Israël aussi grâce au mirage.
Mais ça, c'est l'amitié, Maurice. Ça,
voilà, c'est les mirages de Dassault qui ont fait basculer la guerre.
Alors, pour avancer...
Un petit point de détail,
très important.
Qui est un petit peu Ouais, non, pas forcément important, mais qui est amusant, c'est que l'armée qui négociait avec l'armateur norvégien, qui lui était dans le coup, hein, l'armateur norvégien était au courant du dessous de l'affaire, il a obtenu pour les bateaux un rabais, en fait.
Ah ben comme ça, voilà.
C'est authentique. Il a obtenu pour les bateaux à rabais au motif que ces derniers devaient être rééquipés pour la recherche pétrolière.
Bien sûr. Ouais.
Et un argument que le département des achats de l'armée française avait entendu.
Bon.
Donc voilà, il y avait eu même en fait avant donc au moment de la fausse négociation, quand une partie de l'armée française a vraiment pensé que voilà, ils avaient vraiment face à eux une société panaméenne et un armateur, enfin pas un armateur, mais un industriel, un entrepreneur norvégien, en même temps, on était en train de négocier un rabais derrière. Voilà.
Bon, comme quoi, on ne se refait pas.
Comment?
Je veux dire, on ne se refait pas.
On ne se refait pas, voilà. Et alors, en fait, bon alors, il y a quand même un certain génie dans cette opération, hein, ça on peut pas le nier. Il y a l'armateur norvégien justement qui explique qu'il serait bon de permettre à quelques techniciens israéliens de venir sur place parce qu'ils connaissent bien les bâtiments et qu'ils pourraient donc aider à quitter l'arsenal pour rejoindre la Norvège. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a des dizaines d'agents de renseignement et membres du futur commando donc, qui prendra place sur les vedettes à partir de Cherbourg pour rejoindre Haïfa, qui vont prendre des vols à partir de Tel Aviv à destination de plusieurs capitales européennes, avec pour objectif évidemment de rallier Cherbourg, mais sans éveiller l'attention. Et justement, apparemment, c'est cette demande de l'entrepreneur norvégien qui visait à faire appel aux Israéliens qui avaient travaillé dans la rade de Cherbourg, qui a éveillé les soupçons de quelques membres des services de renseignement français, mais pas suffisamment pour que l'alerte soit donnée en haut lieu, quoi.
D'accord, oui. Donc, l'histoire est faite d'anecdotes, de toute façon. Alors,
voilà.
Pour essayer d'avancer un petit peu, quelles ont été les conséquences? Alors, tu as commencé à en parler un petit peu avec la vente des vedettes, mais quelles ont été les conséquences de cette affaire à l'instant T? Est-ce qu'il y en a eu déjà, d'un point de vue politique, médiatique, international? J'imagine que la France a dû réagir quand même devant les images de joie des Israéliens.
Alors, il y en a une. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la légende ou si c'est avéré, mais c'était Michel Debré donc, qui était, lui, particulièrement énervé, apparemment. Qui aurait proposé de faire couler les vedettes pendant leur fuite. Il aurait proposé de les faire aller par le fond, quoi. Et Chaban Delmas, donc, parce qu'à ce moment-là, donc, on est sous Pompidou, On est à la Noël 60, on est à la Noël 69. De Gaulle a démissionné quelques mois avant, après l'échec du référendum. Chaban-Delmas dit non, on ne peut pas faire ça à nos alliés. Et apparemment, il a eu cette phrase « Bombarder nos amis israéliens, quelle idée, nous n'allons pas en plus rajouter l'odieux au ridicule. » Voilà.
D'accord.
Voilà, ça c'est la phrase que Chaban-Delmas aurait prononcée. Et Debré, lui, apparemment, avait été sur une autre ligne de conduite qui était beaucoup plus ferme. Ça c'est pour les, disons, pour les réactions immédiates dans les heures qui ont suivi le... On va dire l'échappée, quoi.
D'accord, donc c'est les réactions, malgré tout, en politique interne, mais est-ce que la France est positionnée, je veux dire, d'un point de vue diplomatique? Il a bien fallu répondre, quand même, à ça.
En fait, ils ont essayé, au maximum, d'atténuer la gravité des faits vis-à-vis d'Israël, mais surtout, le plus compliqué, évidemment, a été de réagir diplomatiquement vis-à-vis des pays arabes, puisque, comme je le disais, depuis 67, donc depuis 2 ans avant... Il y avait quand même une réorientation, un rééquilibrage de la politique du Quai d'Orsay notamment et de la France en faveur des pays arabes pour rééquilibrer la position qui avait été celle de la France jusqu'alors et notamment sous la quatrième, comme je te le disais, qui était très pro-israélienne. Et donc pour prouver qu'on était toujours dans une situation d'embargo total de livraison d'armes vis-à-vis d'Israël, les diplomates français ont dû œuvrer en fait dans les capitales arabes pour expliquer qu'elles avaient été que la France avait été dupée. Donc évidemment ça n'avait pas été très simple pour les ambassadeurs et les diplomates dans les pays du Proche-Orient et du Maghreb.
Oui, c'est vraiment un piège diplomatique, parce que soit on admet qu'on est dupé,
oui,
soit on admet qu'on est complice.
Voilà, c'est ça, exactement.
L'impasse israélienne. Alors,
voilà un peu, ouais.
D'un point de vue, pour essayer d'avancer un petit peu sur cette affaire des vedettes et peut-être gentiment la clôturer pour passer à la suivante, d'un point de vue médiatique en France, à l'échelle intérieure, comment est-ce que ça a été reçu, comment est-ce que ça a été traité, ça?
En fait, l'annonce a été faite par la presse. C'est-à-dire que même les renseignements français, une partie des renseignements français qui étaient au courant tout de suite, et donc comme je le disais, qui étaient favorables pour une partie de ces services qui étaient favorables à Israël, ont tué l'affaire. Mais c'est en fait la presse qui l'a révélé, et là, c'est là que c'est remonté très haut, donc jusqu'à l'Élysée, jusqu'à Matignon, et avec donc cette passe d'armes qu'il y a eu visiblement entre Debré et Chaban-Delmas.
D'accord. Alors, avant de passer à autre chose sur ces différentes affaires, est-ce que tu voudrais ajouter éventuellement un élément ou une observation sur cette histoire des vedettes?
Oui, c'est un article de West France, voilà, qui date du 24 décembre 2022. C'est 53 ans après les faits, puisque c'était à la Noël 69 que l'affaire des vedettes de Cherbourg avait eu lieu. Et un des personnages de l'époque explique « En tout cas, l'audience internationale de cette affaire apporte une publicité imprévue au chantier naval de Cherbourg. Cela nous a permis de gagner des marchés. Ces vedettes de Cherbourg à Haïfa ont réalisé un exploit nautique, surtout à cette période de l'année, avec la traversée du golfe de Gascogne », souligne Thierry Regnault, l'actuel responsable de la recherche et de l'innovation au CMM. « Ces bateaux, très rapides, avec une grosse propulsion très armée et très maniable, ont ainsi séduit de nouveaux clients. » Et dans la mémoire de l'entreprise, lui demande-t-on, c'est un épisode extrêmement marquant, dit-il pudiquement. Est-il tiré? Voilà. Donc ça, effectivement, ça n'a pas eu que des mauvais aspects, on va dire.
Alors, pour avancer un petit peu, une deuxième affaire, donc on a parlé du vol, il y a aussi la question de l'assassinat. Et donc là, on fait un petit saut de 11 ans en avant, puisque on se transporte dans la nuit du 12 au 13 juin 1980. Yahya Al-Messad est assassiné à Paris dans sa chambre de l'hôtel Méridien. Donc Al-Messad n'est pas une chance pour la France, c'est plutôt une chance pour l'Irak, puisqu'il travaillait sur le programme nucléaire irakien en tant qu'ingénieur nucléaire. De nationalité égyptienne, spécialisé dans le nucléaire et collaborant avec l'Irak beaucoup de raisons pour en faire un ennemi de l'État des gens élus. Certaines sources affirment qu'il a été trouvé avec sa gorge tranchée et plusieurs traces d'attaque par arme blanche. D'autres sources suggèrent plutôt l'hypothèse qu'il aurait été tout simplement battu à mort. Des semaines plus tard, une prostituée parisienne, soupçonnée d'avoir eu un lien avec la mort de Machad, a elle-même été tuée par une automobile en état de fuite. Et les autorités françaises ont soupçonné donc le Mossad d'être derrière cette affaire, mais n'avaient absolument aucune preuve. Israël a publié une déclaration immédiatement après la mort d'El Machad, en affirmant que le programme nucléaire irakien avait été retardé, mais a nié vraiment toute implication. Et j'ajouterai, pour être complet, que cette affaire a été abordée, traitée dans un film, français, enfin, disons franco-israélien plutôt, puisque réalisé par le jeune à l'époque Éric Rochant, Éric Rochant, qui a réalisé un film voilà, avec M. Attal, les Patriotes,
Attal et, Berlin, ouais.
Et la première opération dans le film fait clairement allusion à l'assassinat d'Al Meshad, puisque effectivement, Ricky Berlin joue la prostituée en
question. D'accord, j'avais oublié ce détail.
Ricky Berlin joue la prostituée en question, Attal joue l'espion chargé de l'assassinat, enfin chargé de la cellule plutôt en charge de l'assassinat, et la thèse qui est déployée dans le film, c'est effectivement c'est où il est battu à mort dans sa chambre d'hôtel. D'une part et d'autre part, en revanche, la prostituée dans le film est une agent du Mossad. Donc bon, tout ça est évidemment de la fiction, mais le cinéma a tranché, on va dire.
D'accord. Alors, j'avais complètement oublié ce détail. Je me souvenais plus de cette allusion dans Les Patriotes.
En fait, le film commence là-dessus. Alors, ensuite, Les Patriotes, ils traitent évidemment surtout de cet agent de la NSA qui a trahi les États-Unis. Parce que, bon, les Israéliens sont de mauvais alliés pour la France, mais ils ont aussi été de très mauvais alliés pour les États-Unis, puisqu'ils les ont espionnés pendant des années.
Voilà. Pour les États-Unis, bon, et Israël.
On en parlera peut-être.
On en parlera sûrement un jour, mais on peut parler de ce que les Israéliens ont fait à l'USS Liberty, ce qu'ils ont fait avec leur espion Jonathan Pollard aux Américains. On peut même parler des faux étudiants en art qui étaient aux États-Unis avant le 11 septembre. On peut parler de ce qu'on appelait les Five Dancing Israelis. Il y a tellement d'affaires concernant l'espionnage israélien aux États-Unis que.
Voilà. Et donc, dans ce film, en tout cas, c'est l'affaire Pollard qui est traitée. Donc, je renvoie les auditeurs curieux à ce film, donc, Les Patriotes. Alors, quelques questions, Maurice, sur l'assassinat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment affirmer que, et comment affirmer, que c'est réellement un coup du Mossad, selon toi ?
Bon, en fait, c'est plutôt un faisceau de présomption, mais maintenant, disons, quand on a reposé des questions à des dirigeants israéliens sur cette affaire... les démentis étaient très très mous, on va dire. Donc il peut y avoir deux raisons, c'est-à-dire, c'est toujours la même, d'ailleurs c'est une des techniques du Mossad qui consiste à ne jamais confirmer ni ne jamais démentir, c'est-à-dire qu'on laisse toujours planer le doute. Ce qui laisse d'ailleurs soupçonner que, enfin ce qui laisse penser aux autres, nous sommes capables de le faire, mais vous ne le serez pas. Ou nous ne l'avons pas fait, mais il est bien que vous croyez que nous l'ayons fait. Donc bon, c'est.
Mais admettons que ce soit le cas, un ingénieur nucléaire irakien qui vient dans les années 80 à Paris, en France, les autorités françaises le savent, ils connaissent Al-Meshad, ils savent qui il est. Alors pourquoi ne pas l'avoir mis sous protection, sous surveillance, pourquoi avoir laissé faire ?
En fait, bon, on reviendra juste après sur un épisode qui avait eu lieu 6 mois avant, à la Seyne-sur-Mer, enfin un peu plus de 6 mois avant. C'est donc là, l'épisode El Meshad, c'est juin 80, c'est un tout petit peu plus d'un an avant, qui avait eu un épisode qui a eu lieu le 6 avril 79 à la Seyne-sur-Mer, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, ces deux affaires sont liées, enfin, on va dire que l'affaire El Meshad est un prolongement de l'affaire de la Seyne-sur-Mer, dont je parlerai après. El Meshad, donc, travaillait, était en contact avec le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, Et El Meshad venait notamment d'effectuer une mission de courte durée au tout début juin au centre du CEA de Fontenay-aux-Roses. Et d'ailleurs, les enquêteurs de la. Enfin, au début, hein, les enquêteurs de la brigade criminelle n'avaient pas privilégié d'hypothèse, mais très vite, on évoquera la piste israélienne, tout simplement parce que. Le programme sur lequel travaillait El Meshad était un projet qui rendrait extrêmement furieux Israël. Et il y avait donc une politique d'élimination des scientifiques qui travaillaient sur ces projets, notamment qui visaient à fournir du nucléaire à l'Irak de Saddam Hussein. Et on parle notamment des réacteurs nucléaires de recherche. Qui était baptisé à l'époque Tamuz 1 et Tamuz 2. Et en fait, on a vu la même méthode, depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, vis-à-vis des scientifiques iraniens. Il y a eu un nombre conséquent de scientifiques iraniens qui ont été éliminés, et ils avaient, pour la plupart, même tous d'ailleurs, comme point commun, de travailler sur le développement de la filière nucléaire iranienne, et notamment peut-être à des fins militaires. Et là, à l'époque, c'est un Égyptien, donc, qui travaille en collaboration avec le CEA pour un projet nucléaire concernant l'Irak de Saddam Hussein, et projet nucléaire qui déplaît fortement à Israël. Donc, il ne serait guère étonnant que les Israéliens, effectivement, aient décidé d'éliminer ces scientifiques qui avaient un rôle clé dans ce programme.
En tout cas, il y avait un vrai intérêt. Ma question, c'était plutôt, pourquoi les Français n'ont pas cherché spécialement à le protéger?
Alors ça, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que là aussi, on peut parler de complicité, peut-être, au sein de l'appareil d'État, comme pour les vedettes de Cherbourg, voire d'une partie, d'une fraction ou d'une faction, même peut-être au sein des services d'enseignement français, qui voyait d'un très mauvais œil ce programme conjoint franco-irakien de développement du nucléaire pour l'Irak de Saddam Hussein, et qui aurait fermé les yeux sur une possible élimination d'un scientifique égyptien travaillant sur ce programme, ce n'est pas totalement excluant.
D'accord, mais bon, évidemment, chers auditeurs, vous l'aurez compris, comme à chaque fois qu'on aborde dans nos émissions des faits comme ça, qui sont clair-obscurs, hein, en réalité, c'est-à-dire qu'on connaît le fait, c'est-à-dire qu'effectivement il est mort, il est décédé dans sa chambre d'hôtel, mais globalement c'est très compliqué.
Oui, il y a une part de spéculation qu'on ne peut pas totalement enlever, quoi.
Et qu'on assume pleinement, enfin voilà.
Oui, et qu'on assume.
C'est-à-dire que
on est sur pas... certains plans, on peut émettre que des hypothèses.
Voilà, on ne peut pas être certain de ce qu'on avance, mais globalement, il y a, comme tu disais, Maurice, des faisceaux de présomptions, d'indices, qui laissent à penser que... Alors, le temps passe un petit peu, alors cher Maurice, quelques exemples peut-être autres. Je sais que tu veux parler de la Seine-sur-Mer, je sais aussi que tu veux parler de l'affaire Pegasus, donc voilà, je vais te laisser un petit peu la parole pour nous expliquer éventuellement ces autres faits de la grande amitié franco-israélienne.
La grande amitié franco-israélienne, voilà. Alors donc, en toute logique, donc je vais vous expliquer ce qui s'était passé le 6 avril 1979, parce que vous allez voir, ça a un lien très direct avec ce qu'on a évoqué juste avant avec El Meshad et l'élimination d'El Meshad en juin 80. Donc c'était à l'hôtel, je ne sais plus si tu l'as précisé tout à l'heure, mais c'était l'élimination d'El Meshad avait eu lieu à l'hôtel Méridien à Paris.
Oui.
Donc qui, dans mon souvenir, quand j'étais petit, était encore... était porte-maillot, il était à côté du Palais des Congrès.
Tout à fait.
Donc c'est là qu'il avait été exécuté. Donc pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est un endroit qui est tout sauf calme et discret. Hein. C'est extrêmement bruyant, il y a énormément de passages, il y a beaucoup de circulation, c'est un lieu à grouille. Donc c'est assez peu discret. Ça c'est un petit détail supplémentaire sur l'affaire précédente. Mais donc l'affaire de la Seine-sur-Mer, ça se passe donc le 6 avril 1979. Et ça se déroule sur le port de Brégaillon, où se trouvent les chantiers, les constructions industrielles de la Méditerranée, la CNIM. et qu'est-ce qui se prépare sur ce port de Brégaillon et donc sur ces chantiers de la CNIM. Il y a deux cœurs en acier de réacteurs nucléaires commandés par l'Irak et la France qui viennent d'être achevés sur le site. Et un commando pénètre dans le hangar du port de commerce, et alors vers 3h du matin, et cinq hommes ressortiront quelques minutes plus tard, alors qu'une gigantesque explosion secoue la zone. Et alors ce qui est très intéressant, là encore, c'est qu'une des personnes travaillant sur place à l'époque, donc j'ai trouvé ce petit détail dans un article de Var Matin de 2016 qui revient sur cette affaire, un des membres du personnel avait dit « Ils ont mis la bonne clé dans la bonne serrure », explique André. Alors André, c'est un nom d'emprunt, hein, parce que cette affaire fait encore peur, y compris parmi les ouvriers, les travailleurs de ce chantier. Vous voyez, donc l'affaire a eu lieu, comme je vous le disais, en 79, et l'article date de 2016. Donc on est quand même 37 ans plus tard, à l'époque de l'écriture de l'article, et une partie des ouvriers craignent encore de s'exprimer publiquement et à visage découvert. Enfin, en tout cas, en utilisant leur vrai nom, quoi. Et ce monsieur explique, des complicités ont été absolument nécessaires au sabotage qui a eu lieu. La personne poursuit, c'était une opération professionnelle, les dégâts étaient très ciblés et il n'y a eu aucune victime. Donc ça, c'est la partie heureuse de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de victime à déplorer. Mais toujours est-il que le site, donc comme je vous le disais, avait pour objectif de fournir les deux cœurs en acier de réacteurs nucléaires qui avaient été commandés par l'Irak à la France. Donc, ce qui nous ramène à l'affaire El Mechad. On est sur le même programme, en fait. Hein. On est exactement sur le même programme. Et en fait, on apprend dans l'article de la journaliste Amandine Roussel, donc dans cet article de 2016, que les ex des CNIM, donc la Société des constructions industrielles de la Méditerranée, sont toujours assez peu enclins à s'exprimer sur cette affaire, mais en revanche, ils n'ont rien oublié de cette nuit-là, et ils sont encore, pour certains, assez inquiets de la façon dont ça avait pu se passer, quoi.
Ils sont encore marqués, quoi.
Ils sont encore marqués par l'affaire, ouais, tout à fait. Et il y en a même un qui explique qu'on nous avions reçu des invitations discrètes à boire un verre. Il voulait savoir qui participait au travail sur les cœurs. Alors, en fait, un des intervenants dans l'article explique qu'en fait, des contacts avaient été pris quelques semaines avant, mais c'est seulement plus tard qu'ils ont compris qu'il s'agissait d'agents étrangers, d'agents israéliens, et ces agents avaient déjà tenté de prendre contact avec des ouvriers du chantier pour obtenir des informations. Mais ça, en fait, les ouvriers ne le comprendront que plus tard, qu'après l'explosion.
D'accord.
Donc en fait, on a une opération de sabotage, une explosion sur un site industriel français, donc à La Seyne-sur-Mer, sur le port de Brégaillon, pour un programme nucléaire franco-irakien, et on a un commando israélien qui agit directement sur le sol français et qui met potentiellement en danger la vie d'ouvriers et de travailleurs sur un chantier. Alors heureusement, il était 3h du matin. Ça a été fait de nuit, donc les risques étaient limités de ce côté-là. Et comme je disais, il n'y a pas eu de victime à déplorer. Mais voilà comment les Israéliens n'hésitent pas à agir, le cas échéant, sur le sol français. Un scientifique égyptien travaillant sur un programme nucléaire, on fait sauter une usine pour retarder la fabrication de deux cœurs en acier de réacteurs nucléaires.
Et on vole cinq bateaux.
Et on vole des vedettes. Et on vole des vedettes de Cherbourg.
Et alors,
des vedettes à Cherbourg pour contourner un embargo.
Il y a évidemment plein d'autres exemples avant de conclure, mais il y en a un dernier que tu voulais aborder, peut-être sans doute, c'était Pegasus, je pense.
Oui, Pegasus, et puis un autre, alors qui est encore moins connu que Pegasus, c'est l'affaire d'un accord antidaté. Et vous allez voir, ce n'est pas n'importe quel accord. C'est l'accord, en fait, qui a permis de lancer la dissuasion nucléaire pour Israël. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les autorités de la 4e République sont très favorables à Israël. Et il y a une entente quasi parfaite, en fait, entre les dirigeants israéliens, les dirigeants de ce jeune État, et les figures de la 4e. Et notamment quelques figures comme Bourgès, Modori, etc. Et le Shimon Peres, qui est chargé de récupérer des armes, des munitions, et qui souhaite donc lancer un programme nucléaire, est très proche des autorités françaises. Et il est en contact régulier, notamment avec le commissariat à l'énergie atomique, le CEA dont on parlait juste avant. Et après 4 ans de négociations, le CEA va accepter de fournir à Israël un réacteur à plutonium. Et en fait, il manquait la signature du ministre français des Affaires étrangères et du président du Conseil des ministres de France, de la France, pour conclure l'accord et pour y parvenir. En fait, Pérez se retrouve un peu coincé, car en raison de la signature, en fait, est menacée par le renversement potentiel, et qui aura lieu d'ailleurs, du gouvernement Bourgès-Monori. Et que fera Pérez? Eh bien, tout simplement, il fera un antidaté sur l'accord. Alors, je vais vous lire quelques détails.
C'est-à-dire, peut-être pour préciser quand même, pour ceux qui connaîtraient mal la 4e République...
La valse des permanentes des gouvernements.
C'était un régime... qu'on appelle en droit constitutionnel hyper parlementaire, d'accord. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, donc les gens voulaient, enfin, le législateur a voulu une constitution basée vraiment sur le Parlement. Et donc, un peu à l'italienne aujourd'hui, si vous voulez, ou plutôt à l'anglaise, pour être précis, mais le Parlement pouvait faire tomber le gouvernement très 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 facilement, tant et si bien que, grosso modo, la durée de vie moyenne d'un gouvernement sous la 4e République, qui aura duré donc 12 ans quand même, c'est 6 mois. Voilà, donc effectivement, en matière de politique étrangère, c'est compliqué, et c'est pour ça que eh bien, les ministres ont dû, dans le cas présent, faire appel à un procédé voilà, vieux comme le monde, à savoir tout simplement antidater le document.
Voilà. Alors, je vais quand même vous lire quelques détails. Donc, c'est tiré d'un article du Times of Israel en français, sur leur site internet. Et donc une partie des informations relatées dans l'article proviennent de la biographie consacrée à Shimon Peres, qui s'appelle Phoenix, et qui avait été écrite, rédigée par un historien israélien qui s'appelle Bar Zohar. Alors voilà ce qu'on trouve dans l'article. Son premier arrêt, le matin du lundi 30 septembre, est au bureau de Pierre Guillaume, le directeur du CEA et partisan passionné d'Israël. Il dit à Pérez ce qu'il sait déjà. L'accord ne peut être finalisé qu'avec l'approbation du gouvernement, et le gouvernement est sur le point de s'effondrer. Pérez se précipite dans le bureau du ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, principal opposant à l'accord. Pinault dit rapidement à Pérez ce qu'il a déjà dit à Golda Meir, ministre des Affaires étrangères, quelques jours auparavant. Il veut aider, mais ne peut pas. Les Américains seraient livides s'ils apprenaient cela et pourraient imposer des sanctions à la France, qui handicaperait sa propre capacité nucléaire naissante. De plus, l'accord pourrait entraîner l'Union soviétique à armer l'Égypte avec des armes nucléaires. Pérez est venu préparer, le réacteur a des objectifs pacifiques, répond-il. Bon, alors là, je vais aller un peu plus loin. Il essaie de rassurer donc ses interlocuteurs en leur expliquant que le projet est essentiellement civil. Bon, hein, défense de rire. Et je vais un tout petit peu plus loin dans l'article. Pinault accepte et Pérez lui demande d'appeler le président du Conseil des ministres, Maurice Bourgès-Monori, dont je parlais tout à l'heure. Et le président du Conseil des ministres, pardon. Maurice Bourgès-Monori ne répond pas et Pérez convainc alors Pinault de dicter les termes de leur accord à son secrétaire. Il signe le papier, puis Pérez le convainc que lui, un ressortissant étranger, va transmettre le papier au président du Conseil des ministres de la France. Tout ce qu'il lui faut, c'est maintenant la signature de Bourgès-Monori. Pérez va dans son bureau et attend. Les heures passent. L'après-midi se transforme en soirée. Plusieurs tournées de whisky sont envoyées dans le bureau, mais alors que minuit approche, Pérez réalise deux choses. Il ne verra probablement pas le président du Conseil des ministres ce soir-là, et le président du Conseil des ministres qui est coincé au Parlement est probablement défait par une motion de défiance. Le lendemain matin, le Premier ministre israélien, David Ben-Gourion, écrit dans son journal que le gouvernement français est tombé après un vote sur l'Algérie et que le voyage de Pérez à Paris n'a probablement servi à rien. Et l'auteur de l'article de préciser, il ne sait pas que Pérez a obtenu l'accord oral du Premier ministre tard le soir et qu'à 9h du matin, Pérez est assis dans le bureau de Bourges-Monory. Le président du Conseil des ministres français n'a pas dormi et il a les yeux rouges. Il n'est plus le Premier ministre de la France, il n'a pas l'autorité pour signer un accord au nom de la quatrième. Mais sous les encouragements de Pérez, il signe le document autorisant un accord sur une feuille de papier qui porte la date de la veille. Et alors, le journaliste de Times of Israel,
c'est comme ça qu'on fait de magie.
Et c'est ainsi que la graine de la puissance dissuasive d'Israël a été plantée. Conclusion après la conclusion, et alors celle-ci est de Pérez lui-même. Des années après, Pérez a résumé ce drame de coulisses. Il a dit à Bar-Zohar, cette date ou celle-ci, qu'est-ce que cela peut faire? Quelle importance cela a-t-il entre amis? Voilà. Entre amis, donc.
Donc c'est magnifique. Voilà. Donc effectivement, entre amis, une amitié manifestement très unilatérale.
Voilà, une amitié qui respecte la réciprocité, faite de rapports respectueux, mutuels.
Oui. Oui, voilà, le temps passe, donc peut-être qu'on va rapidement parler de Pegasus.
Je vais passer le plus rapidement possible dessus, parce que c'est seulement celle que nos auditeurs connaissent le mieux, ou en tout cas ils en ont entendu parler. C'est ce logiciel espion qui a été conçu par une société israélienne qui s'appelle NSO, qui est un phoné des services de renseignement israéliens, comme l'était par exemple la société Odigo, qui a joué un rôle notamment le 11 septembre. Si nos auditeurs veulent s'intéresser à la société Odigo, voilà, je leur conseille d'aller jeter un œil là-dessus. Et donc NSO a compromis, c'est ce qu'on dit en termes polis et en termes diplomatiques, a compromis des téléphones ont été compromis, et ces téléphones ont présenté des marqueurs d'infection par logiciel espion commercialisé par la société israélienne NSO, Pegasus donc. Et tout simplement... Des hommes politiques français, des ministres et des diplomates ont été espionnés avec ce logiciel. On peut en citer quelques-uns. Jean-Michel Blanquer, Jacqueline Gourault, qui est maintenant au Conseil constitutionnel, Julien de Normandie, Emmanuel Wargon, Le Cornu, qui, sauf erreur, je crois, est à la Défense maintenant.
Oui.
Et avait été infecté par le logiciel espion israélien Pegasus. Et Wargon, qui est aujourd'hui en charge, je crois, des questions d'énergie, si je ne me trompe pas. De Normandie, qui a eu un rôle aussi... alors, je crois qu'il était ministre des Affaires européennes.
De Normandie, il a été... Bon, il est dans le cercle de Macron depuis le début, mais il a été aux Affaires européennes, il a été ministre de l'Agriculture.
Il a été aux
aussi.
Affaires européennes, voilà. Ça. Et Blanquer, donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale.
Et de l'Agriculture, et... aussi, de Normandie.
Donc là aussi, l'affaire, finalement... s'est passé relativement tranquillement. On a un certain Emmanuel Bonn, qui est le conseiller diplomatique de l'Élysée et un proche collaborateur de Macron, qui s'est contenté de demander des garanties dans l'affaire NSO et qui a déclaré « Nous y travaillons avec les Israéliens ». Voilà. Une rencontre a eu lieu et un dialogue stratégique a eu lieu entre ce monsieur Bonn, donc, et le conseiller national à la sécurité israélien, un certain Eyal Ulata. En gros, c'était « Bon, vous êtes gentil, ne nous espionnez plus, ou si vous le faites, débrouillez-vous pour que ça ne se sache pas. »
Finalement, une anecdote pour nos auditeurs, on avait prévu d'enregistrer cette émission depuis un moment, et des histoires d'agenda personnel nous en ont empêché, mais... Il y a toujours une concordance des temps qui fait que à l'heure où nous enregistrons, à l'Assemblée nationale.
Comme le vendredi saint.
Oui, accessoirement, oui, c'est rigolo. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. À l'Assemblée nationale, en ce moment, il y a un débat sur une proposition de loi venant de députés macronistes concernant les ingérences étrangères. Alors, évidemment, pour eux, l'ingérence, c'est la Russie et la Chine. Voilà, pardon. Mais dans les quatre propositions qui sont faites dans cette proposition de loi, il y a par exemple la création par la Haute Autorité de Transparence de la République, la création d'un fichier, d'un gentil fichier de recensement, sur lequel on obligerait, bien sûr, les espions à se recenser. Voilà, donc là, la proposition de l'appareil d'État macroniste, grosso modo, c'est, on va dire aux espions d'être gentils et de s'enregistrer sur un bout de papier. Comme ça, la prochaine fois, on pourra savoir que c'est des espions et tout ça. Bon, bref.
Et d'ailleurs, ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce projet de loi qui a été... je ne sais plus si c'est un projet de loi, si ça émanait du gouvernement, si c'est une proposition de loi qui émanait d'un député Renaissance, sur la poursuite des propos jugés racistes.
Alors, ça, c'est une proposition de loi.
Ou discriminants sur les propos... Voilà, ça, c'est une proposition de loi, donc ça vient des députés Renaissance. Oui, sur les propos privés, sur les conversations privées.
Donc d'un côté, les espions, on ne peut rien faire, on leur demande de signer un petit registre pour dire qu'ils sont espions. Et d'un autre côté, en revanche, le prochain qui dit à table un truc qu'il ne faut pas dire, vous pourrez peut-être vous retrouver devant les tribunaux pour ça. Mais pour avancer un petit peu et pour aller vers la conclusion de cette émission, moi ce que je voulais dire quand même, c'était que, bon, on l'a vu ce soir, c'est un exercice qui est assez fastidieux parce que, voilà, il faut empiler un petit peu les faits. Encore, on n'en a pris que 4, on aurait pu en prendre des dizaines. Il y a un côté, effectivement, on lit ça à la Prévert, mais tout ça dans un but qui est de montrer que les Israéliens, finalement, si on se met dans la peau d'un Israélien, alors, ça ne nous est pas permis, mais bon, faisons-le quand même. Si on se met dans la peau d'un Israélien, quelque part, on trouve que nos services de renseignement sont excellents. Hein, si je suis israélien, je suis fier du Mossad. Hein. Je veux dire, ils font un boulot quand même considérable avec des opérations extrêmement audacieuses comme pour les vedettes.
Une plus récente, moi, qui ne concernait pas, mais qui concernait les Iraniens, c'était Stuxnet, par exemple.
Voilà, tout à fait. Donc, quelque part, les Israéliens, ils jouent leur propre jeu. Et avec des
Ils sont offensifs.
Et avec des caractéristiques qu'on leur connaît ou qu'on leur prête, en tout cas, du fait... on va dire de leur religion, pour pas dire un autre mot, mais globalement, c'est des gens qui sont offensifs, qui se comportent dans le concert des nations de manière suffisante et parfois arrogante avec leurs voisins, en tout cas de manière clairement colonisatrice. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est même assumé et revendiqué de leur côté. Donc, finalement, la surprise, elle est pour qui? Elle est pour personne. Donc, la façon dont...
En fait, la surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise.
Voilà. La façon dont on nous traite, dont on a traité la France, elle est, selon moi, tout simplement le miroir de celle dont on se comporte nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se faire respecter. Le respect, ça s'impose. Ça ne se demande pas avec un traité. Ça ne se demande pas avec une poignée de main. Ça s'impose. Et à partir du moment où il est... ou quand les Israéliens font une étude de faisabilité pour dire, bon, est-ce qu'on va, est-ce que Al-Meshad, on va se le faire à Paris ou à Rome, et bien à partir du moment où ils disent qu'à Paris c'est possible et qu'il n'y aura pas trop de conséquences, bon, on a déjà perdu, en fait, voilà. Donc, effectivement, c'était intéressant de revenir sur ces...
Et d'ailleurs, on verra ça lors de la prochaine émission, là où on s'intéressera plutôt...
Aux Américains.
Aux États-Unis.
Oui.
Bon, alors là, on a décidé de prendre ces deux-là parce que, comme on le disait, ils nous sont présentés en permanence comme nos meilleurs alliés, nos partenaires.
Oui. Alors, ceci dit, effectivement, tu fais bien de préciser ça. On a choisi de parler des alliés. Voilà, et on aurait pu parler des autres.
Voilà. Voilà, mais c'est que personne, en fait, ne se prive de ce genre de choses. Moi, je pense, par exemple, à ce qu'on a appris en 2019, qui, étrangement, enfin, pas du tout étrangement, hein, quand je dis étrangement, c'est ironique, a assez peu intéressé notre milieu et notre camp, c'est l'affaire des officiers du renseignement militaire russe, par exemple, qui agissaient à partir de la Haute-Savoie et d'Annemasse pour organiser des opérations d'élimination d'Europe de l'Est à partir du territoire français.
De l'Est et de l'Ouest, notamment Skripal, c'est parti de là aussi, c'était à Annemasse.
Ah oui, alors je ne savais pas pour Skripal que c'était parti d'Annemasse, mais en tout cas, toujours est-il que Annemasse était leur base arrière et ils organisaient leurs opérations d'élimination à partir du territoire français. Donc en fait, on voit que ces grandes puissances n'ont aucun remords en fait à utiliser la France comme un paillasson. On le verra donc lors de la prochaine émission avec les Américains, mais ça vaut pour les Russes, les Chinois, les Israéliens, voilà.
Et probablement demain les Saoudiens aussi.
J'oublie évidemment pas les Turcs, on pourrait faire une émission complète qui durerait 2 heures sur ce que les Turcs se permettent en France, notamment par exemple d'éliminer en plein Paris des réfugiés politiques kurdes, d'envoyer le MIT, les services de renseignement turcs pour les éliminer directement, voire d'agiter des membres des loups gris en France pour faire des opérations de déstabilisation en Alsace, en Moselle, voilà. Donc voilà, tout un tas de grandes puissances, en fait, s'appuient aussi sur leur diaspora, pour certaines, elles s'appuient sur leur diaspora présente en France pour nous déstabiliser. Et tout ça est dû, en fait, à l'impuissance organisée de l'État et des classes dirigeantes françaises.
Oui, c'est dû à ça, d'une part. Ensuite, ça s'explique, d'autre part, par autre chose. Et je crois que ce sera un mot de conclusion assez intéressant, surtout par les temps qui courent, des temps de grande instabilité mondiale et géopolitique. À l'échelle des nations, chers auditeurs, et en plus, ça devrait être évident pour les nationalistes que nous prétendons être par moment, c'est chacun pour sa pomme. Il n'y a pas de véritable alliance. Il y a des concordances stratégiques.
Ouais. Il y a parfois des amitiés. Il y a des convergences momentanées.
Ouais. Il peut y avoir des convergences culturelles peut-être, mais à la fin des fins, c'est chacun pour soi. La réalité, c'est celle-là. Aujourd'hui,
c'est le fameux adage, hein, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
Exactement. Aujourd'hui, typiquement, la Chine est plutôt au soutien, et encore, on pourrait débattre de ça, mais est plutôt au soutien de la Russie. Demain, peut-être que la Russie sera en guerre avec la Chine. On ne sait pas.
Quand il sera question, par exemple, de revoir les traités inégaux,
voilà.
Quand on va voir si l'amitié russo-chinoise sera toujours aussi...
Voilà. Et de la même manière, aujourd'hui, les États-Unis sont au chevet au soutien de l'Ukraine, d'accord. Et peut-être que demain, ça changera. Là aussi, c'est une possibilité.
Je vais même plus loin. Je pense que. Et d'ailleurs, on est peut-être en train d'assister à un retournement depuis la guerre Israël-Hamas. Il n'est pas sûr que le soutien des États-Unis à Israël dure encore si longtemps.
Voilà, mais on en a vu les premiers signaux avec les dernières résolutions de l'ONU aussi.
Exactement.
Où les Américains n'ont plus fait appel à leur droit de veto, et donc les Israéliens ont quand
même... Et c'est notamment vrai chez les démocrates.
Voilà, donc tout ça pour dire, chers auditeurs, que c'était pas le but ce soir, c'était pas ni de faire une leçon d'espionnage, parce que nous ne sommes pas espions, et que c'était pas non plus le but de faire une leçon de géopolitique, car nous ne sommes pas là pour ça, mais simplement rappeler, et je crois que c'est important pour chacun dans sa grille de lecture, qu'on peut pas, il est impossible de lire l'état du monde avec les yeux d'un supporter de foot. C'est impossible, chers auditeurs. Il faut raison garder, et c'est pour ça qu'on a trouvé pertinent avec Maurice, voilà, de faire ce cycle sur les alliés qui, en fait, sont peut-être aussi parfois des alliés, parce qu'on peut trouver des exemples où, sans doute, les intérêts français et israéliens ont convergé.
Oh, bah, par exemple, Israël, un moment clé où nos intérêts ont convergé, c'est Suez, en 56.
Voilà, typiquement. Donc,
d'ailleurs, soviétiques et américains se sont mis contre les Français, contre les Britanniques et contre les Israéliens, et finalement ont sauvé la tête de Nasser.
Donc effectivement, le mot de la fin, c'est simplement que On fera évidemment une deuxième mission consacrée aux États-Unis, mais le mot de la fin sera sans doute le même en demeurant, à savoir qu'il faut vraiment réussir, et c'est compliqué à l'ère de la formation, mais garder une tête froide, à garder un regard posé, calme et froid, et surtout désintéressé, ou plutôt même intéressé, mais intéressé avec l'intérêt qui doit être le nôtre, et pas forcément celui qu'on croit détecter dans la propagande de l'autre. Voilà, à bon entendeur, salut sur ce point. Maurice, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Non, bah on donne rendez-vous à nos auditeurs pour le second épisode de ce diptyque, donc sur les États-Unis, la prochaine fois.
Eh bien, chers auditeurs, merci d'avoir écouté les chroniques de la longue vue. Encore une fois, toutes nos excuses pour la qualité sonore qui est sans doute un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de vous proposer. On va rétablir ça le plus vite possible pour les prochaines fois. Évidemment, en attendant, à l'abordage.
Et pas de quartier.
Pas de quartier.
Lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers, et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. Que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir.